Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Depuis 2015, le dispositif lycéen offrait un toit à tous les jeunes à la rue qui étaient scolarisés. Des appartements financés aux deux tiers par l'État, la préfecture d'Île-de-France, le rectorat et la mairie de Paris. 108 lycéens parisiens en ont ainsi bénéficié, et puis soudain, plus rien. En janvier, les jeunes sont informés qu'ils doivent quitter les lieux et rendre leurs clés. Le dispositif est supprimé. Une décision prise en décembre 2024 par la préfecture de Paris, qui n'a juste pas voulu le renouveler, explique Mediapart, alors que c'était le cas depuis 10 ans. Voici donc des élèves à la rue, sans toit, ni cuisine, ni repas, ni lieu pour faire leurs devoirs. Or, un élève qui dort dans une tente ou ne mange pas à sa faim, si on est un enseignant un tant soit peu attentif, ça ne passe pas inaperçu. Ce sont des regards, des attitudes, des corps abîmés, des façons de lutter contre le sommeil ou la faim qui ne trompent pas, même si les élèves font leur mieux pour donner le change. C'est ainsi qu'au lycée d'enseignement professionnel Hector Guimard à Paris, dans le 19e arrondissement, des professeurs n'ont pas réussi à rester les bras croisés. Olivia Muller est allée les rencontrer et a essayé de comprendre comment ils en sont arrivés là.
Je m'appelle Ludivine, j'ai une quarantaine d'années et j'enseigne au lycée Hector Guimard.
Je m'appelle Lydia, je suis enseignante au lycée Hector Guimard depuis plusieurs années et j'ai 40 ans.
Vous nous êtes arrivés qu'en décembre, après des petites discussions en salle de professeurs, on a réalisé qu'on avait chacune, un ou deux élèves qui étaient dans des situations très précaires. Et cet hiver, il faisait quand même particulièrement froid et on avait quand même beaucoup d'élèves qui n'avaient pas de manteau. Ou alors il y a un manteau, mais abîmé, et dessous, ils ont juste un t-shirt. Donc ils n'enlèvent pas leur manteau parce qu'en fait, ils n'ont pas de pull. Et notre premier geste, c'est d'essayer de faire une collecte de vêtements et on a créé une sorte de magasin dans l'établissement. Et on se rend compte, dans leurs gestes, dans leurs choix, qu'ils n'ont vraiment rien, à part un petit sac. Et à force de discussion, on réalise qu'ils dorment dehors, sous un pont, sous une tente, souvent sous une tente quand même, ils ont des sortes de places. Une attitude qui m'a beaucoup marquée, c'est un élève qui dort depuis plus d'une année dehors, et lorsqu'il cherche les vêtements, il réfléchit de manière stratégique à un vêtement pour dormir sous tente. Il choisissait des vêtements pratiques, qui ne gratte pas, qui peut enlever rapidement ou remettre rapidement par rapport à sa situation, de pas forcément être en sécurité. Ils ont froid, c'est une chose, ils ont faim, mais surtout ils ont peur. Et moi, mes élèves, ils ont totalement conscience et de la chance qu'ils ont de venir tous les jours au lycée. Ils travaillent, vraiment, parce qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent exactement la chance, enfin voilà, d'être à l'école, oui.
On peut pas estimer qu'un jeune est scolarisé correctement s'il dort à la rue. Enfin, c'est pas possible. Moi, c'est quelque chose qui me paraît inconcevable. Je m'explique pas que, alors qu'on dit que c'est des métiers en tension, qu'on a besoin de main d'œuvre dans ces filières-là, et ben, on se dise pas à un moment donné, allez, là à Guimard, il y a des CAP, des futurs détenteurs d'un CAP métallerie, on a besoin de métalliers, d'ouvriers soudeurs, etc. Mais donc on prend en charge vraiment leur formation. Et ils sont motivés, ils bossent bien. À chaque fois qu'on a des retours de patrons, généralement ça se passe bien. Ils sont contents, ils voudraient les embaucher. Mais non, ça je l'explique pas. Ça me paraît complètement incohérent et absurde.
Puis notre premier travail, ça a été d'essayer de comptabiliser en fait ces élèves. Parce que ça fait chaque année, on a des élèves dans des situations précaires. Mais là, cette année, on avait l'impression que c'était un nombre vraiment plus important que d'habitude. Puis on a commencé à réfléchir à des solutions. Donc je ne sais plus qui d'entre nous a pensé à une cagnotte. Alors la cagnotte, c'est un grand moment parce qu'on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Et nos familles ont mis de l'argent et même beaucoup d'argent. Et c'était émouvant parce qu'on s'appelait, on disait « Tu as vu la cagnotte ?»« Tu as vu la cagnotte ?» Et on voyait les chiffres comme ça qui augmentaient, 1000, 2000, 3000, 4000. Au début, je regardais tout le temps. Chaque sou paraissait merveilleux. Il y a eu au moins un millionnaire effectivement qui a donné et qui voulait rester anonyme et qui a contacté directement une collègue en fait pour pouvoir donner l'argent. Et c'était, il nous a donné 2000 euros. Le premier but de cette cagnotte, c'était l'hébergement pendant les vacances de Noël. Et avec cet argent, on se retrouve très vite bloqué. Parce que si les élèves sont mineurs ou n'ont pas de papier, on ne peut pas les héberger dans des endroits comme des auberges de jeunesse. Donc on devait faire des choix, on a dû trouver des solutions d'hébergement, d'Airbnb. La personne qui s'est occupée d'Airbnb, surtout, ils étaient plusieurs, mais il y en a une qui a pris bien la charge, elle a décidé d'être honnête et de dire clairement ce qui se passait. Et qu'on était des professeurs qui étaient à la recherche d'un appartement pour des élèves qui dormaient à la rue et qu'on était présents. Qu'on serait là, qu'on viendrait les voir. Quand elle écrivait les demandes, elle a été claire là-dessus. Les élèves, quand ils apprennent qu'ils vont dormir au chaud, déjà, ils comprennent assez vite que c'est pour une période, mais ils sont contents. Même une nuit, madame, nous, on prend. Ça, je me souviens. Même une nuit, parce qu'en fait, une nuit, ça veut dire une nuit de sommeil réparateur. Et donc, ce qu'on voit chez des élèves qui dorment dehors, j'allais dire une vieillesse. Et oui, ça vieillit, la rue. L'angoisse vieillit, la peur, ça vieillit. Le fait de ne pas dormir, ça vieillit. Et donc là, on voit tout de suite le bénéfice. En quelques jours, le fait de dormir et d'être en sécurité, ça... Ils sont redevenus des gamins et ils ont perdu 10 ans parce qu'ils avaient pris 10 ans. Après, ça a demandé un travail de fou pour ceux qui sont restés pendant les vacances de Noël, par exemple, parce qu'il fallait aller sur le lieu, aider au ménage, aux courses. Comme il y avait un lieu où ils pouvaient cuisiner, on leur a apporté les courses. On leur a fait des listes. Des choses qu'ils mangent, qu'ils ne mangent pas, des choses qu'ils voulaient. Et après, ils se sont mis à cuisiner. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entraide aussi entre eux et qu'ils cuisinaient, qu'ils ont profité pour faire des repas. Et donc ça, c'était chouette. À la fin des vacances de Noël, c'est le retour à la rue. Et même si on était préparé, c'est pas forcément un moment agréable. Le retour à la rue, il est un peu compliqué.
Si les élèves de Ludivine et Lydia sont plusieurs à dormir dehors, certains lycéens parisiens, 108 au total, avaient droit à un hébergement depuis la création en 2015 du dispositif lycéen. Ce plan offrait un toit, une assistance psychologique, sociale et juridique dès l'inscription des lycéens dans les établissements scolaires. Seulement, en janvier, l'État décide de mettre fin à ce dispositif. Les professeurs du lycée Hector Guimard comprennent alors qu'elles vont devoir trouver des solutions pour leurs élèves à la rue, mais aussi pour tous ceux qui étaient logés jusqu'à présent. Ces derniers ont quelques jours pour rendre leurs clés.
Alors, d'abord, c'est dans une formation. C'est une information officieuse. Où une collègue qui travaille au CASNAV, centre d'accueil pour les élèves arrivant en France. C'est le service du rectorat, en fait, qui gère la scolarisation des élèves qui arrivent de l'étranger. Donc une collègue qui dit, voilà, on a appris que le dispositif lycéen allait s'arrêter. Donc là, on est un peu effaré. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils vont arrêter d'inclure de nouveaux élèves dans le dispositif. Et au fur et à mesure, on comprend que, en fait, non, c'est même pire que ça. Ils vont arrêter complètement. Et là, c'est pareil, ça me paraît complètement absurde. Enfin, pourquoi ne pas attendre 6 mois à la fin de l'année scolaire ou que chaque personne ait un diplôme? Donc oui, tout ça, on l'a appris comme ça au fur et à mesure. Et on a mis du temps à avoir une vraie info officielle. Les jeunes, eux, ils l'ont su, les jeunes concernés, ils l'ont su, je pense, maximum 3 semaines avant la date où ils étaient censés rendre les clés de leur hébergement. Donc ça, c'est aussi très très court. Il y a aussi une forme de violence, moi, je trouve, quand on fait cours et qu'on explique aux élèves ce que c'est que les valeurs fondamentales de la République française, que tout le monde est à égalité, que c'est une République sociale. et que derrière, on sait dans quelle situation ils sont. Et en fait, les élèves, il y en a aucun qui m'a dit « Mais madame, ce que vous dites, c'est pas vrai. » Il y en a aucun qui m'a dit ça, alors que en le disant, je m'attends à ce qu'il me dise ça. Et j'ai mon petit truc préparé de dire « Mais c'est un idéal à atteindre, les choses sont plus ou moins... évolue en fonction des situations politiques, etc. Mais ils le font pas, alors qu'ils le savent, ils s'en rendent bien compte. Et ça, je trouve que c'est violent de leur dire ça et de faire comme si de rien n'était quelque part.
Au cœur de l'hiver et face à l'urgence, les professeurs du lycée Hector Guimard décident de médiatiser leur action. Quelques journalistes découvrent alors le combat qu'elles mènent depuis des semaines.
Et là, heureusement, on a eu un impact par rapport à un article dans le Libé.
Un article écrit par le journaliste Rachid Laïrech.
Et grâce à cet article, il y a des personnes qui ont contacté le journal de Libération pour se manifester et pour dire que la situation les touchait et qu'ils étaient prêts à accueillir des élèves. Et donc depuis quelques temps, on a deux élèves, par exemple, qui dorment au chaud, et qui ont gagné 10 ans de vie grâce à ça, et qui sont c'est des magnifiques rencontres avec des hébergeurs solidaires. Après, malheureusement, on a des élèves qui arrivent encore dans l'établissement, et on en a découvert, on découvre des nouvelles situations. Là, on en a découvert 3, très récemment, cette semaine. Ce qui nous inquiète, nous, aujourd'hui, c'est que même si on a des propositions d'hébergement, si on arrive à placer un élève par-ci, par-là, il n'y a rien dans la société actuelle qui nous donne quelque chose de... d'une prise en charge. Et là, on ne voit pas d'issue. Et c'est ce qui nous inquiète, là, actuellement. Des fois, les gens de notre entourage, ils nous disent ça. Ils nous disent, c'est pas à toi de faire ça. Mais ça m'est insupportable.
On n'a pas de solution. Alors que nous aussi, nous avons la passion de travailler, d'aller à l'école, d'exercer un métier pour être quelqu'un demain. Je m'appelle Mohamed. Je suis au lycée Hector Guimard à Paris 19e. J'ai 18 ans. Je viens de la Guinée-Conakry. Je fais le CAP première année. CAP en plomberie, première année chauffagiste. J'aimerais faire la plomberie pour servir les gens qui en ont besoin. Mais ça ne va pas de mon côté parce que je dors dans la rue. L'automne, l'hiver, j'étais dans la rue. Tout en allant à l'école, j'étais dans la rue. Je dormais sous le pont à la gare de Lyon, dans une tente, avec d'autres jeunes. Comme nous sommes beaucoup, on se regroupe pour avoir un lieu où on se sent en sécurité. Durant tout ce temps, je pense que c'était tout. Hein. C'était la tristesse, la colère, des fois la maladie. Il y a tout ça, il y a des émotions. Des fois, quand je me vois dormir sous la tente, j'ai l'air d'être fou. Et aussi le froid, je ne suis pas habitué du froid. Avant de rentrer au lycée, j'avais l'intention de me suicider parce que ça n'allait pas. Mais une fois rentré au lycée, j'ai un peu d'espoir maintenant. Grâce à l'aide des professeurs, donc ils essayaient de dire que vraiment ça va aller, concentre-toi, ne fais pas de bêtises, ne te décourage pas, prenez les études au sérieux. Donc ça me donne aussi du courage. Étudier dans la rue aussi, c'est pas facile. Tout est difficile. Avec la cantine, ça soulage un peu. On mange un peu, mais même pas suffisamment, mais quand même, on mange un peu. On dort pas bien, on se lave pas bien, on mange pas bien. On n'a pas le choix, on sait pas que faire. C'est l'habitude, on est dans la rue. Malgré tout ça, je suis le premier de la classe. Je vis dans la rue, mais... on n'a pas manqué du courage pour travailler en classe. Quand j'ai des devoirs, je pars à la bibliothèque. Je m'assois là-bas pour traiter mes devoirs. C'est l'endroit idéal pour moi. Puisque moi, j'aime lire. Littérature, surtout les littératures africaines. Le roman de Camara, là, L'Enfant Noir. plein de romans africains. Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Amadou Ampatiba, Amadou Kourouma.
Qu'est-ce que vous aimez apprendre dans ce CAP?
Tout ce que le prof me montre, ça me plaît de faire. J'ai eu l'opportunité de faire le premier stage. Et ça m'a montré encore, ça m'a motivé de plus encore d'aimer ce métier. On a changé le ballon d'eau chaude. Et on a changé le siphon, le lavabo. On a fait plein de choses. Donc vraiment, ce métier, ça me convient. C'est ma passion aussi. L'eau, c'est une source de la vie. C'est pourquoi j'ai choisi la plomberie. Et grâce à les professeurs maintenant qui se battent pour nous, aujourd'hui je suis hébergé par une famille de quelques jours d'abord.
Chez Charles Essou.
Chez Charles Essou. J'ai bien dormi, et j'étais très content et j'ai bien mangé. Bon, ce qui m'a plu, c'est qu'ils nous ont aimés comme leurs propres enfants. Ils nous demandaient, vous avez mangé? Ça fait longtemps, moi, on ne me demande pas si tu as mangé ou pas. C'était une grande joie pour moi.
Ça, c'est la chambre de Mohamed S. C'était la chambre d'Oscar, mon deuxième. Et ça, c'est la chambre de Mohamed B. Voilà, avec un petit bureau sur lequel il peut faire réviser ses cours. Donc, je m'appelle Charles Kéo. Je suis le chef de ma petite entreprise que j'ai montée il y a 30 ans avec mon épouse. On est une vingtaine, on distribue des produits de puériculture. Et on est dans le 19e à Paris. Donc je suis tombé sur l'article de Rachid Leiresh dans Libé, et j'ai trouvé quand même un petit peu choquant que des lycéens puissent être à la rue. Que des lycéens soient à la rue, ça c'est une découverte pour moi. Des gamins qui sont scolarisés, qui apprennent des métiers dont on a besoin, qui veulent être intégrés, qui sont sérieux... Qu'ils soient à la rue, je trouvais ça assez scandaleux. Et comment vous dire, j'ai aussi une sensibilité au problème de la migration. Mon père était irlandais, et l'Irlande était un pays de migrants, c'est un pays pauvre, et donc il fallait partir trouver du boulot ailleurs. J'ai simplement pensé que c'était de mon devoir de faire quelque chose, même si c'est pas grand chose, mais un peu pour aider, un peu pour montrer l'exemple, un peu pour montrer à ces jeunes qu'il y a des gens qui sont là. J'en ai parlé à ma femme évidemment, mais là, je savais pas si je pouvais aider. Hein, je sais pas si j'ai, donc c'est pour ça que j'ai pris contact avec le lycée. Les professeurs sont ravis et je crois que le soir même, elles arrivaient avec les deux Mohamed qu'on a accueillis. Le soir même, ils étaient là avec leur baluchon. J'étais très très sympa, pas très bavard. Ils ont mangé avec nous, et puis après ils ont été s'installer dans leur chambre et puis dormir et puis et voilà. Alors ils m'appelaient pas Charles parce que c'est en Afrique on n'appelle pas le vieux par son prénom. Et ça ils nous l'ont expliqué. Et donc, je suis tonton Charles, et puis Sou, c'est tati Sou.
Est-ce qu'il y a des règles à respecter, ici?
Des règles à respecter, non. On n'est pas, ouais, on essaie de pas, déjà avec nos enfants, ils avaient du mal à respecter les règles. Donc, ces jeunes-là, ils étaient très calmes, très gentils, beaucoup plus faciles que nos enfants, d'une certaine façon.
Charles et Sou doivent régulièrement partir en voyage. Alors ils avaient prévenu, ils peuvent héberger les deux lycéens, mais pour une durée déterminée. Des amis du couple ont proposé de prendre le relais pour un temps, mais les lycéens, eux, restent confrontés à l'incertitude des lendemains.
Est-ce qu'on va se retourner encore dans la rue? C'est une inquiétude pour nous. On n'est pas... Ils vont continuer aussi à nous aider, on ne sait pas. Bon, pour ça, on ne connaît pas la suite. Il y a d'autres jeunes aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au lycée qui ne sont pas hébergés. Je trouve que ce n'est pas bon. Dieu merci aussi, grâce à les professeurs, ils donnent la motivation, ils font tout pour nous, ils se battent pour nous. Quand quelqu'un se bat pour toi aussi, il faut que tu te bats encore. C'est pourquoi je suis là, je me bats. L'autorité française nous accueille très mal. L'État français nous accueille très mal. Il faut se dire la vérité.
Oui, bonjour, je vous appelle parce que je vous ai envoyé un mail, c'est Olivia Muller à France Culture, je travaille sur le dispositif lycéen, et je vous ai envoyé un mail il y a peut-être une semaine ou deux, j'ai pas eu de réponse.
Ok, je vais regarder ça.
Le dispositif lycéen était financé à plus de 2/3 par l'État, le reste par la mairie de Paris. Alors, j'ai tenté de joindre les personnes compétentes. Le préfet de région, d'abord, comme on vient de l'entendre, qui ne me rappellera jamais. Puis le rectorat, ils refuseront de prendre l'appel. Enfin, j'appelle Léa Filoche, adjointe à la mairie de Paris, en charge notamment des solidarités et de l'hébergement d'urgence. Deux questions centrales. Pourquoi ce dispositif lycéen a-t-il été supprimé? Et la mairie de Paris a-t-elle des solutions alternatives à proposer aux lycéens et lycéennes qui dorment dans les gares et sous les ponts de la capitale?
En fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que il y a un choix de l'État de réorienter les crédits qui étaient alloués à ce dispositif pour d'autres publics, des publics en famille.
Des publics comment, pardon?
En famille, des familles à la rue. Donc, j'ai immédiatement écrit au préfet de région Île-de-France, qui est le correspondant de l'État, si je peux dire ça comme ça, pour ces sujets. Et il a mis pas mal de temps à me répondre. Alors, il m'a répondu, je sais pas, 3 semaines ou un mois plus tard, en me disant que c'était comme ça, et qu'il n'était pas satisfait du dispositif, que les jeunes n'étaient pas vraiment des jeunes, qu'ils n'étaient pas vraiment scolarisés, que... Enfin, des fausses excuses, parce qu'en vérité, il y avait un vrai taux de réussite d'insertion, pérenne. Le rectorat aussi était très satisfait de ce dispositif. Donc, c'est une décision unilatérale. Donc, en fait, les relations avec l'État, à partir de début décembre, se sont très sérieusement compliquées. Et donc, on a tous les chiffres, hein, mais on n'en fait pas la même analyse. Moi, j'estime que quand on a 75 ou 80% des jeunes qui sortent de ce dispositif avec un parcours d'insertion qui est clair et net, pour moi, c'est une réussite.
Eux se fondent sur les 20-25% d'échecs.
Oui. Ça m'étonnerait qu'ils vous parlent sur ce sujet. Hein. Pour moi, il y a une volonté depuis 2 ans qui est, qu'on constate sur le terrain de ne plus gérer ce public de jeunes, des très jeunes, de ne plus du tout les gérer, de ne plus du tout les accueillir dans un espèce de fantasme d'appel d'air. De dire, si on les accueille, si on les met au chaud, si on s'occupe d'eux, il va y en avoir plus qui vont venir. Et c'est là que, évidemment, pour moi, c'est terrifiant. Terrifiant, parce que, évidemment, la question d'appel d'air n'existe pas, c'est un délire et un fantasme, toutes les études le démontrent. C'est honteux, parce que qui remet à la rue des gamins qui sont en cours d'année scolaire? Moi, ce que j'ai essayé d'obtenir, c'est au moins d'aller jusqu'en juin. La seule chose qu'on a obtenue, c'est qu'au lieu de fermer le 31 décembre, ils ont fermé le 31 janvier. Voilà, super.
Est-ce que la mairie de Paris a les moyens de proposer des solutions alternatives à ces 108 jeunes? 108, c'est pas beaucoup.
Non, malheureusement, honnêtement, on pallie déjà beaucoup au manquement de l'État. Moi, je sais plus pousser les murs, j'ai plus de budget pour le faire. Ça rend tout le monde fou. Et c'est valable à Paris, mais c'est valable ailleurs en France. Hein. Moi, je parle avec mes homologues de Lyon, de Marseille, de Bordeaux, de Strasbourg, de Nantes, de Rennes, de Lille, de Clermont. Ils sont tous dans la même situation, alors avec des volumes qui sont moindres. Mais c'est partout pareil. Il y a des gens dans les rues partout, tout type de public, et à qui rien n'est proposé. Rien de rien. Sur ce sujet-là, honnêtement, on n'est pas à l'aise. Hein.
En attendant un sursaut, les professeurs du lycée Hector Guimard continuent de consacrer temps et énergie aux lycéens les plus précaires. Cependant, il y a quelques semaines, et après un début de médiatisation de leur combat, elles apprennent que la CPE, pilier de leur collectif, est subitement renvoyée pour être placée dans un autre lycée. Cette dernière a 2 heures pour plier bagages, professeurs et lycéens sont sidérés.
Alors je peux parler du coup dur que c'est pour nous, puisque la CPE effectivement était très impliquée dans le collectif. C'était un appui sans faille et puis une personne extrêmement engagée. Et effectivement, il y a 2 semaines, elle a dû prendre un poste ailleurs, dans un autre établissement, et elle a eu 2 heures. Elle n'a pas pu dire au revoir aux élèves. Ça a été aussi, même pour les élèves, ils n'en reviennent toujours pas. Et elle a dû partir. Mais pour nous, c'est compliqué. Parce que ça met à mal encore notre combat aussi.
C'était à Paris, des lycéens à la rue, un reportage d'Olivia Muller réalisé par Perret Legras. Merci aux enseignantes et aux élèves du lycée Hector Guimard à Paris, à Rachid Laïrech de Libération, à Hélène Cornet, à Mahamadou du lycée Étienne Dolet à Paris également, l'attaché de production des Pieds sur Terre. C'est Valentin Rémy et notre stagiaire c'est Luce Mourant. Thank you.